Cause commune, comme si vous y étiez.
Réparer le présent, construire le futur, nous sommes au Chakirai, un superbe lieu culturel et solidaire qui accueille des artistes et des associations pour faire vivre le quartier de la Goutte d'Or dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et vous nous écoutez également sur la radio Cause commune, qu'on remercie pour cette diffusion en direct. Nous avons une heure devant nous et donc sans plus tarder, je vais rappeler un peu le contexte, puis laisser nos trois invités se présenter. Donc les discussions que nous allons avoir se font dans le cadre du Festival de la Récup qu'organise le REFER. Le REFER, c'est le Réseau Francilien du Réemploi, qui est un réseau de 62 associations du réemploi solidaire, des ressourceries, des recycleries spécialisées, des Emmaüs et des ateliers vélo. L'association du REFER donc existe depuis 10 ans. Elle accompagne les porteurs de projets et les collectivités à ouvrir de nouveaux lieux du réemploi solidaire en Île-de-France. Elle porte tout type d'action collective avec ses 62 adhérents pour promouvoir la seconde main associative d'intérêt général, non lucrative et porteuse d'emploi en insertion. Voilà. Merci public. Et évidemment, ce 7e festival de la Récup qui nous accueille est la plus emblématique des actions du REFER, qu'elle organise tous les ans ou tous les deux ans. Je vous invite donc à consulter la très très riche programmation du festival qui se déroule au 104, où se trouvent les 17 espaces de boutiques des ressourceries, au Jardin des Halles, avec une cinquantaine d'ateliers autour de la récup et de la réparation. Et enfin, le Chakirai, où nous sommes aujourd'hui, qui accueille notre table ronde du jour, deux très belles expositions et un faux procès qui aura lieu à 15h30. Nous avons aussi deux concerts, dont un au Jardin des Halles ce soir, avec les Underground Cosmic Digs, et un bal pop récup au 104. Et enfin, pour demain, je me dois de mentionner la vente aux enchères de 120 trésors des petits objets découverts chez nos adhérents ressourceries, qui aura lieu au 104 dans la boutique d'Emmaüs Défi, de 14h à 15h30. Et enfin, le carnaval porté par le collectif Olé Masque, qui partira à 16h de la Halle Pajol jusqu'au Jardin des Halles. Donc c'est une énergie de dingue qui est déployée par toutes les associations adhérentes du réseau. Ça fait au moins un an et demi qu'on travaille sur l'organisation de ce festival. Il y a 270 bénévoles qui sont mobilisés. Il y a une équipe salariée de 12 personnes très incroyablement dédiées. C'est important de leur rendre hommage aussi aujourd'hui. Voilà, ils sont pas là, mais ils nous entendent, les énergies passent. Voilà, moi je m'appelle Paul Dumayet, je suis un ancien salarié de la jolie bande du REFER, aujourd'hui bénévole pour organiser cette table ronde. Je vous ai tout dit, je vous propose de rentrer dans le vif de la table ronde et donc de présenter nos trois invités Isabelle Carrère, Pierre-Éric Letellier et Benoît Angelbach pour qu'ils nous racontent ce qui les anime, quelles sont les initiatives qui les rassemblent autour de notre table aujourd'hui. Et je commence par Isabelle. Isabelle, dites-nous, qui êtes-vous? Que faites-vous?
Oh, tu me vouvoies,
on se vouvoie, on se tutoie.
On se tutoie. Attends, c'est pour de vrai, non?
Voilà.
C'est pour de vrai. Merci de cette introduction. Je suis d'accord, c'est une belle énergie que le REFER a mis, là, pour tout ça. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Là, j'ai un petit peu celle de la radio. Cause commune, 93.1, mais j'ai aussi surtout la casquette aujourd'hui pour Antanac, qui est une association dans laquelle nous récupérons des ordinateurs fixes, portables, quelques téléphones, nous les reconditionnons, nous les libérons, émettons des systèmes d'exploitation libres, et on les donne à ceux et celles qui le souhaitent, individus, particuliers, collectifs, etc. Et nous avons créé un réseau REFIS, dont j'aurai l'occasion de reparler peut-être tout à l'heure.
Parfait. Je sais pas, Benoît, tu prends la suite, ouais.
Oui, merci, merci Paul. Benoît Angelbach. Donc, je suis là au nom de l'association Repair Café Paris. Alors, je précise que je suis plus bénévole aujourd'hui de cette association, mais j'ai participé à sa création et j'ai été très actif pendant plusieurs années. Les Repair Café, ce sont des ateliers de réparation bénévole et l'objectif, c'est de réunir à la fois des bénévoles réparateurs, des bénévoles qui organisent et des personnes qui ont des choses chez eux qui fonctionnent fonctionnent plus et qui sont en général pas assez chers pour être réparés par un professionnel, et donc d'essayer de les réparer avec ces personnes dans une ambiance conviviale. Donc le slogan des Repair Café, c'est vraiment réparer pour éviter de jeter. Donc j'ai été très actif dans les Repair Café Paris pendant plusieurs années, également pendant plusieurs années très actif dans une association qui s'appelle Repair Café France, où on a essayé de fédérer l'énergie, de capitaliser entre ce que faisait, parce qu'il y a, ça s'est développé très vite, il y a des Repair Café vraiment partout maintenant. Puis à titre personnel, je précise que je suis aussi élu dans mon entreprise au nom du syndicat Printemps Écologique depuis 6 mois, donc là où on essaye de faire bouger les lignes dans les entreprises, voilà.
Ok, cool, parfait, et il ne reste plus que Pierre.
Bonjour Paul, moi je suis salarié de Le Recyclage, qui est un réseau national d'ateliers vélos participatifs et solidaires. Qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers vélos participatifs et solidaires? On accueille le public qui sont des cyclistes qui ont besoin d'entretenir ou de réparer leur vélo. On les conseille, on les accompagne dans les réparations, on leur apprend, même si besoin est, à monter en compétences pour eux-mêmes devenir bénévoles et pouvoir accompagner d'autres personnes. Ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est qu'on a aussi une activité de recyclerie spécialisée sur le vélo. Donc, on va collecter des vieux vélos en fin de vie. On va les réparer si c'est possible, ou on va les démonter pour récupérer les pièces détachées pour pouvoir réparer d'autres vélos avec ces mêmes pièces détachées. Et la troisième mission qu'on se donne aussi, c'est d'être des lieux de vie dans lesquels on favorise le vivre ensemble, dans lesquels on arrive à faire des choses en faisant fi de nos différences, en luttant contre les discriminations qu'on peut vivre au quotidien. Donc c'est vraiment l'idée d'utiliser le vélo comme un outil en fait de lien social, de convivialité, et de pouvoir aussi aborder avec cet outil plein d'enjeux, des enjeux d'écologie, de gestion de déchets, etc. Donc il y a une vraie fonction, je pense, d'animation de la vie de quartier. Aujourd'hui, le réseau de Le Recyclage, alors Le Recyclage, c'est un jeu de mots qui passe pas à la radio, mais pour expliquer, c'est l'heureux comme content cyclage. Parce qu'il y a une époque où on faisait pas bien la différence entre le réemploi et le recyclage chez nous. Ouais. C'est des sujets techniques, mais vu que c'est la fête de la récup, on peut en parler. Et du coup, dans ce réseau, aujourd'hui, on a 250 ateliers en France sur à peu près 500 structures. C'est des structures qui sont de petite taille, hein, c'est des petites assos de quartier dans lesquelles il y a parfois du salariat. Mais en majorité, c'est des structures qui sont portées uniquement par des bénévoles. Ouais. Et ça se développe de plus en plus. Ça s'est créé les premières dans les années 90. Il y en avait une poignée en France, et puis ça a très fortement augmenté. Maintenant, on en retrouve un peu partout, notamment dans les agglomérations, mais aussi de plus en plus dans les zones peu denses, les territoires ruraux, parce qu'on vient quelque part aussi offrir un service là où il n'y avait plus d'offres de réparation classiques.
Vous avez en commun tous les trois le fait d'avoir des structures ou d'être membre de structures très bénévoles, de travailler avec des personnes à qui on apprend à réparer, donc le geste d'auto-réparation qui se distingue de celui de réparation. Quel sens pour vous ce geste-là de la pratique amateur, de l'apprentissage de la réparation, du bricolage? Quel sens il a ce geste pour vous, Isabelle?
Ouais, alors du coup c'est bien que tu le présentes comme ça, parce que nous on a, en tout cas en Tanac, et je pense que sans doute aussi ailleurs, c'est pas tellement la question de des gens qui savent et qui apprennent à d'autres, mais c'est plutôt pour moi dans auto-réparation, il y a aussi on est ensemble pour apprendre à. Et donc à Antanac en tout cas, on est très très attentif à ça. Et pour moi, le sens du coup de ces questions, ce sont des sens. Alors il y a des sens pluriels, mais ce sont des sens très 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 politiques dans lesquels on essaie de faire en sorte que ça soit abordable à tous et toutes. Et quand je dis toutes, c'est aussi parce que, on en a parlé en préparant cette table ronde, on a une vraie problématique. Je ne sais pas si elle est simplement liée au numérique et à l'informatique, mais en tout cas chez nous, elle est là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui réparent des vélos, mais en tout cas, nous, on voit pas beaucoup de femmes qui réparent des ordinateurs. Et malheureusement, les stagiaires nous demandent à venir dans l'association, ou des personnes qui viennent et qui osent prendre un tournevis et ouvrir leur ordinateur, ce sont très 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 souvent des hommes. Et donc pour moi c'est une activité genrée bizarrement, cette affaire de bricolage, de réparation jusqu'à présent, Il y a des évolutions, on avance un petit peu, mais vraiment on avance, je trouve, beaucoup trop doucement sur ces questions. Le premier sens, évidemment, de la réparation, c'est ce que vous avez dit, Benoît et Pierre, c'est la question de tant que ça peut servir, on a envie que ça serve. Et donc c'est la limite qu'on peut donner avec une toute petite part de ce qu'on peut faire, tel les colibris, disaient d'autres personnes à certains moments, de limiter les déchets. En informatique, il s'agit de limiter les D3E. Il s'agit également de limiter la consommation qu'on pourrait avoir en rachetant un produit plutôt que de le réparer. Donc, racheter un autre ordinateur plutôt que de réparer celui qu'on a. Et donc, ça veut dire limiter également notre contribution, notre participation à de l'extraction ici ou là, mais surtout là, de minerais, de matériaux, de terres rares, etc., qu'on voit et dont on voit bien les désastres, tant pour les habitants-habitantes qui sont dans les pays dans lesquels il y a ces extractions, qu'en termes d'environnement, en termes de pollution de l'eau, pollution de l'air, etc. Donc ça, je pense que c'est une conscience qui est de plus en plus existante, on en reparlera sûrement tout à l'heure aussi, mais je pense que ça existe pour de vrai, et que du coup, je ne sais pas si à chaque fois qu'on ouvre un ordinateur ou qu'on répare une casserole ou une bouilloire ou que sais-je, on a ce sens-là, mais un peu quand même, c'est-à-dire quelque chose comme ça qui est de je contribue à ce que on ne soit pas en train de faire tout et n'importe quoi sur cette planète, quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire aussi prendre soin. Prendre soin, et qui dit prendre soin d'un objet, c'est qu'on est capable de prendre soin des autres, de soi, et des objets des autres, et des autres personnes autour de soi, de l'environnement et des siens au sens large, donc de sa communauté d'intérêt, de ses communautés d'intérêt. Et donc, les lieux conviviaux d'auto-réparation ou autres sont aussi des apprentissages de faire quelque chose ensemble, au-delà de sa famille, son couple, ses amis, etc. Et donc, ça permet ça. Ça permet aussi de faire autre chose que de consommer ensemble, que d'aller boire une bière ensemble, même si j'adore boire une bière avec d'autres gens. Mais ça permet de faire d'autres choses ensemble qui sont pas simplement de se...
Tu peux même boire une bière et réparer.
Et en même temps réparer, oui, tout à fait. Je dis une bière, mais ça pourrait être du vin, je ne veux pas faire de... Hein, on peut boire ce qu'on veut, ou un jus de fruits. Voilà. Et puis, l'autre chose, après, j'arrête là, mais l'autre chose qui est importante... Non, il y a deux choses encore, ce que je voulais dire, oui, sur la question du sens. Il y a la question du sens politique aussi, qui est le droit d'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'autorise à réparer quelque chose, on le répare soit pour soi, soit on le répare pour qu'il continue une vie, et que donc il continue une vie même chez d'autres ou avec d'autres. Et on est, à Antanac notamment, on n'est vraiment pas pour la question de la propriété. On pense que c'est pas, on n'a pas besoin d'être propriétaire d'un objet pour s'en servir. Et donc on milite pour un droit d'usage qui petit à petit, là aussi, ça passe dans l'esprit des gens. Et quand on leur dit, voilà, cet ordinateur, il est pour toi, on te le donne. Et la seule chose qu'on te demande, c'est le jour où tu n'en as plus besoin, tu nous le rapportes pour qu'on puisse le redonner à quelqu'un d'autre. Et ça commence bien à rentrer, ça aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Vous avez déjà des adhérents qui ont ramené des ordinateurs ?
Oui, absolument. Okay. Alors, soit quelqu'un qui le ramène en disant, j'en voudrais, maintenant ma situation a changé, j'ai besoin d'un ordinateur portable alors que j'avais pris un fixe, ou bien d'un portable qui soit plus qualifié, plus calibré, parce que je vais faire de la vidéo, je dis n'importe quoi. Enfin, voilà, oui, il y a ça. Et aussi des gens qui ont dit, et là c'est là où on n'a pas gagné, mais c'est pas grave, ah, je vous rapporte l'ordinateur parce qu'en fait je m'en suis acheté un. Ah. Et c'est une des limites, on le verra à un autre moment, peut-être dans le point 2 ou 3 de tes questions, mais c'est une des limites aussi sur la capacité des gens à trouver que sur le temps long, c'est vrai. Et puis je ne peux pas ne pas dire un mot quand même du libre. C'est-à-dire que là aussi, le libre, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, dans le public et à la radio, mais c'est donc cette question des systèmes d'exploitation qui ne sont pas privatisateur, propriétaire, et donc c'est les sous GNU Linux, toutes les distributions qui permettent de se libérer de l'obligation d'acheter toujours de nouvelles licences, puis un matériel qui suit la licence, etc. J'arrête là parce que sinon je pourrais partir 3 heures.
C'est top. Benoît, j'ai l'impression qu'Isabelle t'a regardé, donc vas-y.
Je pense qu'elle a dit beaucoup de choses. Sur la dimension écologique de la réparation, il y a aussi, en plus de l'évitement d'extraction de nouvelles ressources, il y a aussi le fait que, notamment sur un ordinateur ou un smartphone, la consommation d'énergie pour la fabrication, elle est beaucoup plus importante que pour l'utilisation. Donc c'est aussi de l'énergie évitée. Puis il y a tous les transports pour que le matériel vienne de Chine jusqu'en Europe ou là où il est acheté. Bon, mais bon, enfin, t'avais dit le principal sur la dimension écologique. Moi, je pense qu'il y a aussi la dimension, pour compléter un peu sur la dimension humaine, il y a évidemment le plaisir d'apprendre, de faire des choses ensemble. Ça peut être aussi une manière de passer à l'action, hein, face à une situation où on se sent déprimé, un peu anxieux. Bah, finalement, faire des choses, c'est une manière de se sentir mieux, ça fait du bien. Et ça va même jusqu'à, dans certains cas, à de la mobilisation. Je voulais prendre l'exemple d'un repair café qu'on faisait dans un lycée de décrocheurs dans le 13e arrondissement, où en fait l'équipe pédagogique, qui était géniale, utilisait la réparation. Ils avaient un atelier fabuleux, ils stockaient tout un tas d'ordinateurs principalement qui marchaient plus, et en fait ils remettaient les élèves décrocheurs au travail scolaire grâce à la réparation, en les remettant en selle. Donc il y a vraiment cette idée de se mobiliser, et se mobiliser, ça fait du bien.
Ok, cool.
Sur les vélos, on a un truc, enfin en tout cas le recyclage, un concept qu'on appelle la vélonomie, qui est un mot valise, une contraction de vélo et d'autonomie. Et en fait, c'est ce qu'on met en avant quand on explique qu'on cherche à faire en sorte que les cyclistes soient en capacité de faire les réparations sur leur vélo, parce qu'on estime que c'est un des rares objets du quotidien où aujourd'hui on est encore, enfin un objet vraiment quotidien et qui va nécessiter un entretien, et qui reste relativement accessible en termes de compétences mécaniques à acquérir si on veut en faire l'entretien. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment derrière la notion d'autoréparation, pour moi, d'abord un besoin finalement premier qui est celui de prendre soin des choses, mais parce qu'elles s'usent. Parce qu'elles s'usent, et que du coup, si on veut qu'elles durent, il va falloir soit y consacrer du temps pour les réparer soi-même, soit avoir un budget qui peut être assez conséquent, notamment sur le vélo, parce que un vélo qu'on utilise tous les jours, ça peut se chiffrer rapidement en plusieurs centaines d'euros quand on passe dans le circuit marchand classique pour l'entretenir. Donc je pense que les gens qui viennent dans les ateliers chez nous, leur premier besoin, il est à la fois sur ce besoin de réparation, pour alléger leur budget, et à la fois sur cette envie d'être à l'aise, d'être autonome, de pouvoir aller peut-être plus loin en vélo, de pouvoir se projeter sur des déplacements plus longs, de pouvoir partir en vacances, dire bah je vais pas être en galère si jamais j'ai une crevaison qui arrive, ou et donc ça c'est une demande qui est assez forte, et je pense que aujourd'hui on est quand même assez on va dire dépossédé des objets de notre quotidien, c'est-à-dire qu'on sait plus comment c'est fabriqué, on sait plus où est-ce que ça a été fabriqué, on sait pas du tout y toucher sur la plupart des objets, même on n'ose pas, tout est d'ailleurs enfermé, caché, on voit rien. C'est un peu le principe du design moderne. Et je pense que la culture du do-it-yourself, c'était un peu ça à un moment, c'était de remettre les mains dans le cambouis, de se dire, mais en fait, c'est une activité qui est plaisante aussi. C'est quelque chose qui est enrichissant d'un point de vue humain, de pouvoir se réapproprier cet objet qui nous paraissait lointain, et finalement se dire, je le comprends, je le maîtrise, je sais quoi en faire. Dans les ateliers, je pense que c'est, et dans les repair cafés, c'est, on bascule un peu du do-it-yourself, de faire soi-même au faire ensemble. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé dans cette démarche. Et là, on entame une réflexion, je pense, qui, c'est ce que tu disais par rapport à la consommation. La consommation aujourd'hui, c'est quand même un acte qui est très individuel. On va dans un magasin, on achète, on se retrouve avec son objet. Quand on est dans une démarche de réparation collective comme ça, je pense qu'on se rend compte qu'on peut questionner collectivement ce rapport à l'objet, ce rapport à la consommation, et pourquoi pas envisager des formes de possession après différentes propriétés d'usage, etc. Et là, c'est aussi intéressant. Moi, je dirais que sur la notion de propriété, finalement, dans ce rapport aux objets qu'on construit, on construit aussi une histoire et on construit un lien. Et on construit un lien qui va permettre de quelque part, prendre davantage soin. C'est-à-dire qu'un objet qu'on a déjà réparé deux fois, qu'on connaît, on va y faire attention. Je prends l'exemple. Alors, c'est pas tout à fait approprié d'usage, mais si on prend de la location longue durée, notamment, je prends les Vélib à Paris, il y a énormément de dégradation. Les gens n'en prennent pas soin. On voit pas trop de cyclistes jeter leur propre vélo dans la Seine ou dans le canal, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là de se dire cet objet, il a une histoire, il m'appartient, je le connais bien. Et je pense que le dernier point sur le sens de l'autoréparation, c'est aussi que finalement on voit la nécessité du low-tech dans les objets si on veut qu'ils soient accessibles. là où on arrive à intervenir aujourd'hui, c'est sur des objets qui
tu
sont...
Tu dirais comment en français, le low tech?
Voilà, la basse technologie peut-être, en tout cas la technologie accessible. Non, mais l'acte de réparation chez soi, ça va être sur, voilà, de fixer un mobilier avec une vis, de recoudre une chemise, ça va être de resserrer quelque chose qui est en train de se desserrer. Et dès qu'on arrive sur des objets qui demandent des outils spécifiques, des compétences faramineuses, et ben là, on sort complètement de ce qui est accessible en termes d'autoréparation, de réparation collective. Et ça c'est un gros enjeu de sens, en fait, derrière les objets.
Très bien, merci beaucoup, Pierre. Moi, ça me fait penser ce que tu viens de dire au fait que autour de la table, les vélos sont ceux, j'ai vu ça dans le Social Terre sur le bricolage et la réparation que je vous recommande toutes et tous, qui est excellent. Le vélo est apparemment l'objet le plus réparé, en tout cas en France. 63% du temps, il est réparé. Moi, je pensais même plus, parce qu'effectivement, il requiert des compétences qui sont effectivement transmissibles entre cyclistes, de parents à enfants, etc. Donc ça donne un truc un peu moins compliqué à ouvrir le capot, parce qu'un ordinateur ou un autre objet électrique et électronique. Et du coup, ça m'amène à vous poser un peu cette question-là, je me tourne pas mal vers Benoît, de ce rapport à l'objet qui effectivement est souvent assez passif, consumériste, et du coup où les gens ont tendance à avoir envie d'avoir une garantie. Et du coup, cette question-là de la garantie qui n'existe par essence, qui ne peut pas exister par essence dans les trois activités que vous menez, qui est aussi une question pour les ressourceries. À chaque fois, quand on vend les objets, les gens nous demandent combien de temps de garantie ils vont avoir. Et c'est toujours des questions délicates parce que, par essence, la seconde main qu'on leur vend, même si on l'a vérifiée, même si on l'a nettoyée, etc., on a du mal à avoir une garantie très sérieuse, comme très sérieuse entre guillemets, hein, mais comme les magasins neufs peuvent l'offrir. Donc voilà, je voulais vous poser cette question, particulièrement à toi, Benoît, qui travaille avec des objets un peu plus
plus technologiques.
Voilà.
Non, mais effectivement, il y a des personnes qui pointent du doigt le risque lié à la garantie quand on vient dans un repair café, ou à la qualité de la réparation, ou au risque de casse même. Mais je pense qu'ils ont, ils ont tout à fait raison. Mais également parce que quand on parle de garantie, on parle de réparation professionnelle. Et pour moi, il y a vraiment de la place pour la réparation professionnelle et pour l'auto-réparation, pour la réparation amateur. Donc, c'est pas du tout antinomique. Je précise quand même que dans les repair cafés, on manipule des objets électriques, parfois avec des fortes tensions. Donc, on forme les réparateurs, ils sont formés, ils sont informés à minima des risques électriques. Et ce qui fait qu'en général, on prend la bière après le repair café, mais pas pendant. Je précise, c'est important. Parce qu'il faut être concentré, et enfin, mine de rien, voilà, je pense à les micro-ondes par exemple, si on fait pas gaffe, on peut vraiment s'électrocuter même quand ils sont débranchés. Mais voilà, pour revenir à cette question de garantie, de qualité, je pense que c'est ça qui fait la différence avec les professionnels, mais encore une fois, il y a de la place pour les deux. Et les repair cafés, les ateliers bénévoles, enfin les repair cafés ou les autres initiatives de réparation bénévole, ce sont aussi des outils super intéressants. Je l'ai pas dit tout à l'heure sur le sens, mais déjà socialement, c'est un outil vachement intéressant parce qu'en fait, on va réunir des gens qui sont là pour des questions écologiques, des gens qui sont là pour des questions plus sociales, qui ont pas les moyens de racheter, tu l'as dit tout à l'heure. On va réunir des réparateurs qui sont peut-être des geeks, qui eux sont là uniquement pour se faire plaisir parce qu'ils adorent, ils ont tout réparé chez eux, chez leurs voisins, dans leur famille, chez leurs amis, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, donc ils sont là pour voilà. Et des gens qui sont un peu démunis, qui ont envie d'apprendre. Donc voilà, c'est un outil vraiment social qui est super intéressant, mais c'est aussi un lieu pour apprendre à prendre des risques, à faire confiance, le risque que ça marche pas, le risque que ça casse, le risque que ça marche là et puis dans deux semaines ça marche plus. Et d'une certaine manière, c'est, enfin, en dehors de l'écologie, c'est une dimension politique importante, puisque moi j'ai l'impression, enfin, j'invente rien, hein, je pense que l'avenir sera fait à la fois de incertitudes, de nombreuses incertitudes avec un S, sera fait de situations où il va falloir se débrouiller, bricoler. J'aimais bien l'histoire de bricoler le futur, et donc démonter des objets, comprendre comment ça marche, essayer de trouver des solutions, même si on n'a pas tout sous la main, même si on n'a pas pas l'outil parfait. On peut aussi fabriquer l'outil. Si on n'a pas la compétence, on peut demander à son voisin, etc. Donc, apprendre à se débrouiller politiquement, c'est intéressant parce que, encore une fois, je pense que dans l'avenir, c'est des compétences qui seront nécessaires à un niveau au niveau du quotidien, mais aussi à un niveau plus politique. Alors après, je ne sais pas si on aura le temps de parler des questions d'autonomie. Moi, je ne pense pas que... c'est même pas qu'il faille ou qu'il faille pas, mais je pense pas qu'on puisse aller individuellement vers l'autonomie totale, parce que finalement on est tellement interdépendant de l'environnement dans lequel on est. Mais en tout cas, de toute façon, il va falloir apprendre à renoncer, donc il va falloir apprendre à faire des choix. Réparer, c'est aussi mieux comprendre comment fonctionne un objet. Choisir, par exemple, la low-tech, c'est ça, choisir de supprimer une fonctionnalité pour préserver l'objet. Je pense à un ampli que j'avais réparé au Repair Café, et le bénévole qui m'aidait m'avait dit: bon, écoute, je sais pas, la stéréo, je sais pas te la mettre, est-ce que tu le prends en mono? J'ai dit: bon, ok, je le prends en mono, c'est pas grave, j'aurai pas la stéréo, mais mon ampli va continuer à fonctionner. Voilà, donc apprendre à faire des renoncements en décortiquant, en voyant comment ça fonctionne, et en faisant des choix avec toujours l'idée que il faut essayer de limiter l'empreinte qu'on peut avoir sur l'environnement.
Oui, alors tu dis renoncement, moi j'aurais dit qu'on pourrait parler de sobriété. C'est-à-dire que oui, peut-être que ça peut paraître comme des renoncements, mais aussi la sobriété pour moi elle peut être joyeuse. C'est-à-dire, c'est pas simplement je me prive de, c'est aussi j'arrive à faire avec moins, j'arrive à faire avec moins de besoins. Je réévalue à l'aune de ce qu'on voit de l'environnement, de notre environnement à tous, toutes, puis au suivant, à ceux qui vont arriver là, qui sont tout petits maintenant ou qui sont pas encore là. Et donc c'est vrai que la question de la garantie, je trouve ça hallucinant, parce qu'en fait quand tu répares toi-même, en fait ton SAV c'est toi. C'est-à-dire SAV, pardon, le service après-vente. Ça veut dire que si tu es en capacité de faire évoluer toi-même l'engin que tu as réparé, là si je parle d'un ordinateur ou d'une cafetière, c'est un peu la même chose. Demain matin, si elle a quelque chose d'autre à faire, eh bien elle sera évidemment entre tes mains à nouveau. Mais je pense que le politique, il est déjà dès maintenant. C'est-à-dire, c'est pas simplement demain ça sera politique, c'est maintenant que c'est politique. La sobriété, c'est un sens politique. Le fait de ne pas racheter et d'arrêter de faire des usines à n'en plus finir et une production consumériste phénoménale, c'est maintenant qu'on s'en occupe. Et ça fait partie, alors une toute petite échelle, mais ça fait partie d'une lutte contre un capitalisme outrancier, forcené, dans lequel on fait tout et n'importe quoi. Donc on est, ça paraît énorme de faire ce grand pas, mais en fait il existe ce pas-là. C'est-à-dire que oui, avec nos petites actions de récupération, de remise en cause de avec quoi on vit et pourquoi, et qu'est-ce que j'utilise au quotidien ? Oui, on est sur cette lutte-là aussi. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a les luttes de sabotage, etc. C'est autre chose. Mais en tout cas, là où on est, nous, aujourd'hui, sur la récup, on est sur ce terrain-là. Et si on n'y est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que, socialement, on pense que la récupération, c'est que pour les pauvres. Ou bien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça me désolait, la personne qui nous rapporte un ordinateur en nous disant « Ah, mais maintenant, j'ai l'argent, j'ai de quoi me payer pour en acheter un », pour moi, c'est désolant. C'est-à-dire que le reconditionnement ne marchera pas, ne fonctionnera pas, la récupération ne fonctionnera pas si on pense et qu'on considère que c'est que pour les pauvres et les gens qui n'ont pas d'argent. C'est juste improbable.
Donc il y a une bataille culturelle, enfin il y a un sujet de bataille culturelle là-dessus et de déconstruction de la pensée. Enfin, il y a un sujet de pensée dominante par rapport à notre rapport à la consommation et notre rapport à l'objet, qui est quand même un sujet de fond auquel, j'imagine, vous êtes confrontés quotidiennement et qui est pas facile à démonter un peu, j'imagine.
Non, mais parce que même pour nous, il est pas facile. Et que du coup, là encore, on est en train d'apprendre avec les personnes avec qui on fait les choses. C'est pas nous qui savons déjà tout, puis on va venir apporter la bonne parole. En tout cas, c'est pas comme ça que nous, on se positionne. C'est pas la posture, on se positionne.
Ok. J'ajouterais sur cette distinction, en tout cas le rapport au modèle lucratif ou classique de réparateur, c'est qu'on se situe dans une branche de la réparation qui est le domaine non marchand. C'est porté par des assos, notre but c'est pas de faire de l'argent. Et il faudrait pas qu'on se fasse enfermer dans la logique qu'ils veulent nous imposer, celle de la réparation, celle des labels qualité sur les produits de seconde main, etc. Parce que c'est un peu le discours aujourd'hui qu'on entend partout, il faut de la qualité, il faut donner des gages aux consommateurs. Mais en fait, moi, je suis persuadé qu'il faut aussi proposer une alternative et que tout le monde n'a pas forcément envie ou besoin de ça. Et ce sont des choses qui, quelque part, nous enferment. C'est la belle, c'est garanti, parce qu'on ne sera pas en capacité de les donner. Et du coup, il ne faudrait pas qu'on soit disqualifié dans ce qu'on propose parce que les pouvoirs publics mettraient des obligations, que ce soit sur des qualifications métiers pour les réparateurs, etc. Il faut qu'on puisse laisser cette... On est dans la marge, en fait. Hein. On est dans la marge, mais ça fonctionne. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que finalement, si on prend les ateliers d'autoréparation de vélos, les repair cafés, etc., on voit qu'il y a un engouement extrêmement fort et que finalement, en termes de réparations qui sont effectuées, c'est pas déconnant en termes de nombre de réparations. Si je prends les vélos, bon bah oui, il y a le secteur lucratif classique. Vous allez chez un réparateur, vous payez pour votre réparation. Effectivement, il vaut mieux qu'il vous propose une garantie. Sinon, si ça fonctionne pas, c'est normal que peut-être vous retourniez contre lui. Mais dans les ateliers vélos, on explique très clairement, et je pense que c'est pareil dans les repair cafés, que l'engagement de la réparation, il porte sur le détenteur du produit et que le réparateur, il va bien l'ouvrir, mais finalement, il ne pourra pas venir se plaindre derrière si ça ne fonctionne pas. Effectivement, il y a aussi cette démarche d'apprentissage par l'échec ou la répétition. On est, nous, principalement sur des vélos qui ne sont pas à 5000 euros. Je pense que quand vous avez un vélo à 5000 euros, soit vous le réparez parce que vous savez le faire et vous ne prenez pas de risque, soit vous le mettez chez le réparateur. Nous, on est sur des vélos où, en fait, on peut presque se permettre l'échec et la casse parce qu'on a des pièces détachées.
On a besoin d'un vélo à 5000 euros ?
Moi, non. Il y a des gens qui s'amusent avec des vélos à 5000 euros. On ne les voit pas passer chez nous. Et c'est pas que, enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des gens qui viennent faire de l'auto-réparation dans nos ateliers avec des très beaux vélos aussi. Des fois, on n'est juste pas en capacité de les aider parce que ce qu'on disait sur la technologie, les vélos aussi, ça devient des choses qui sont de plus en plus difficilement réparables. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aimerait pas, ça serait, voilà, qu'on nous impose quelque part des obligations de formation, même pour animer des permanences d'auto-réparation. Aujourd'hui, on a beaucoup de bénévoles. On a des gens qui peuvent tenir une permanence et être en capacité de dire à la cycliste qui vient, bah, désolé, aujourd'hui, moi, ni personne ici ne saura t'aider sur la réparation, donc on va pas pouvoir la faire. Il faut pas qu'on se force non plus à se dire qu'on est en capacité de tout faire ou tout réparer. Et il faut vraiment qu'on ait cette place et qu'on défende cette alternative au circuit de réparation classique. Sinon, on va jamais réussir à maintenir notre modèle face à une réparation qui est soutenue aujourd'hui par les pouvoirs publics, parce qu'il y a de plus en plus d'aides qui sont dirigées pour relancer, mais c'est très bien, relancer l'activité de réparation, etc. Mais il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment des activités associatives non lucratives.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur un élément que tu viens de dire tout à l'heure, là, sur la réception par les usagers, les cyclistes qui viennent chez vous, du fait qu'un bénévole puisse dire, en fait, je ne vais pas pouvoir t'aider, c'est trop compliqué, ou je ne peux pas te garantir que ça va marcher. Quelles sont les réactions en général des gens? Est-ce que c'est bien pris? Est-ce qu'il y en a qui s'en vont, qui claquent la porte en disant « je vais jamais revenir ici, ils ne servent à rien ces gens ». Enfin là, je fais la caricature. Mais est-ce que, tu vois, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment ce sujet-là culturel, il est ancré dans des réactions quotidiennes, dans des comportements qu'on a tous et toutes. Et du coup, je sais pas si vous avez en tête des exemples ou un truc un peu général.
Je vais bien rebondir dessus. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, il y a des gens qui viennent. En fait, c'est très peu connu ce qu'on fait dans les ateliers d'autoréparation vélo. Donc, on voit une asso de quartier qui fait du vélo. On se dit, bah, c'est un réparateur classique. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent la porte et qui disent, ah, bah, j'ai mon vélo, il y a quelque chose. Est-ce que je peux le laisser? Donc, là, on dit, bah, non. En fait, ici, c'est toi qui vas réparer le vélo. On va t'aider, t'accompagner si tu sais pas faire. Et là, ça arrive hein, que la personne dise « bah non, mais des fois pour des raisons légitimes qui sont « j'ai pas le temps ». Et ça, c'est extrêmement important. On est dans des sociétés où il n'y a plus le temps de justement avoir ces pratiques de bricolage. Et les gens qui restent chez nous et qui bricolent et qui s'investissent bénévolement sont des gens qui prennent le temps justement pour faire cette activité-là. Et tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne peut pas non plus le faire. Voilà, c'est nos modes de vie... nos temps pleins qui nous empêchent aussi de participer à ces activités. Mais en tout cas, nous, on l'explique quand les gens arrivent souvent à l'atelier, on est très clair sur le fait qu'il n'y a pas d'engagement sur les réparations qui pourraient être produites, et c'est déjà un filtre à l'entrée.
Non, sur la même question, je pense qu'il y a tout type de. Nous, on a tout type de réaction. La plupart des gens comprennent tout à fait. Et d'ailleurs, on a une charte qu'on affiche. Enfin, je sais pas, moi j'étais à la cycloficine, il y avait aussi une charte à l'entrée quand tu arrives. Donc, on demande aux gens de lire la charte. Ils l'acceptent de fait, où tout ça est expliqué. Donc après, il y a tout type de réaction. Mais ça, je dirais que c'est comme à l'école, comme dans les services publics, comme chez le fromager. Enfin, il y a des gens qui se sentent très frustrés ou qui ont de la colère. Mais ça fait partie du truc de gérer aussi ces personnes-là et d'arriver à leur expliquer en sorte qu'elles repartent avec le sourire, parce que c'est aussi il faut aussi qu'elles passent un bon moment, quoi. L'objectif, c'est pas de virer ceux qui sont chiants, et c'est que tout le monde passe un bon moment et que ça se passe bien.
Ok, cool.
Ceci quand même, faut virer ceux qui sont chiants, parce que c'est pas drôle. Non, mais je pense que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Paul, hein. On a tous, toutes des choses à déconstruire. Et donc, on a aussi à déconstruire des rapports sociaux. Et notamment, nous, on voit en Tanac, par exemple, des gens qui vont venir et puis qui vont vouloir nous forcer à nous mettre dans une position marchande ou autoritaire ou je sais pas quoi, parce que c'est de ça dont ils ont l'habitude. Mmh. Et là, on parle de réparation. Moi, je pourrais parler des permanences d'écrivains publics qu'on fait. C'est la même chose, où les gens viennent te mettre, ils te poussent, parce que c'est ça qu'ils connaissent. Puis c'est là où ils sont bien, entre guillemets. En fait, ils y sont très mal. Mais ils pensent qu'ils y sont bien. En tout cas, que ça doit être comme ça, les relations sociales avec quelqu'un. Donc, c'est du service, c'est de la consommation, je sais pas quoi. Donc, on a, oui, à déconstruire, mais on ne peut pas le faire tout seul. On est censé plutôt être, en tant que mammifère, on vit avec d'autres, et donc il faut le faire ensemble, de déconstruire. Sinon, ça marche pas.
Et du coup, vous avez cette sensation-là depuis combien de temps chacun? Depuis 10, 15 ans que vous existez chacun, 20 ans pour certains.
Vous êtes super jeune.
Ouais, vous êtes super jeune, vous avez rajeuni. Non, mais vos associations, est-ce que vous avez cette sensation-là malgré tout, là? On a parlé un peu des gens qui n'ont pas encore, pas des gens, mais de notre manière, du chemin qu'on a à parcourir. Vous avez l'impression qu'on en a déjà un peu parcouru, qu'on a gagné un peu de terrain d'un point de vue encore une fois culturel, politique, par rapport au nombre d'usagers que vous avez, au discours que les usagers ont, à vos rapports avec des élus, par rapport aux politiques publiques. Est-ce que vous avez là-dessus l'impression qu'on avance depuis la création de vos assos, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Du côté des ateliers vélo, on va dire qu'on se sent avancé parce que on est de plus en plus nombreux et nombreuses à participer, à bénévoler, à monter des structures, et ça se voit dans le nombre des structures, ça se voit aussi dans la reconnaissance qu'ont les autorités, en tout cas au niveau local, de ce qu'on fait. Mais on surfe aussi beaucoup sur la vague de la mobilité à vélo. Si on devait se baser, si on avait été dans de la réparation d'autres produits, je pense qu'on aurait eu plus de mal à atteindre le niveau où on est aujourd'hui. Ouais. Mais cela dit, je pense qu'il y a vraiment la question du local, des élus locaux qui savent ce qu'on fait, qui nous soutiennent, ou voire d'autres types d'institutions qui vont nous soutenir, et puis la question de la reconnaissance dans les politiques plus larges au niveau national, où sont des sujets qui sont encore très éloignés des considérations que peuvent avoir les élus sur la manière de développer la réparation. Et je vais prendre pour exemple, c'est intéressant, mais il y a un an, il y a eu un plan vélo national. On a réussi à avoir des mesures de soutien pour le développement, ils ont appelé ça des ateliers de réparation assistée, ça c'est le texte réglementaire, et puis dans la communication grand public, c'était des repair cafés. Alors au début, moi j'ai pas trop compris, je me suis dit, tiens, il y a de l'argent pour les repair cafés sur le vélo, c'est bizarre, peut-être que c'est pour monter de l'éclairage, on va faire des bonbons. Non, c'était pas ça, mais et en fait, on a réussi à avoir ça parce que au moment de la loi AGEC, donc il y a 4 ans maintenant...
Anti-gaspillage, économie circulaire.
Voilà. Il y a eu la création de dispositifs qui sont les fonds réparation. Alors les fonds réparation, qu'est-ce que c'est? C'est dans les filières à responsabilité élargie des producteurs. Donc c'est les filières sur lesquelles de produits sur lesquels on met en place un principe pollueur-payeur. Vous achetez une télévision, vous allez payer une éco-contribution qui va financer la fin de vie une fois que la télévision deviendra un déchet. Et si possible, ça finance aussi l'éco-conception, la réparation, etc. Donc, on a créé des fonds réparation pour relancer la réparation des produits en France avec des sommes qui sont considérables. Sur les D3E, c'est plus
D3E,
de 100 000...
D3E, déchets économiques... déchets électriques et électroniques.
On parle de plus de 100 millions d'euros chaque année qui sont fléchés pour augmenter... alors, c'est pas pour augmenter le nombre de réparateurs, normalement, c'est pour faire baisser le prix de la réparation quand vous allez chez un réparateur classique. Donc, 100 millions d'euros par an pour le secteur marchand de la réparation. Combien pour les repair cafés? Zéro. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même un écart entre ce qu'on fait sur le terrain et puis à quel point on est considéré. Donc sur les vélos, c'est pareil, il y a une filière déchets comme ça spécifique. Il y a eu, pareil, 150 millions d'euros à 130 qui sont fléchés sur le développement de la réparation, zéro sur les ateliers de réparation assistée. On a des études depuis plusieurs années qui montrent que la réparation dans les ateliers vélos, c'est 10% du total des réparations qui sont effectuées. Les réparations chez les réparateurs classiques, c'est 25%. Et les réparations, on va dire, à domicile, où les gens font chez eux sans passer par un soutien quelconque, c'est 65%. Mais pour dire, en proportion, ce qui est fait par les ateliers vélo, c'est quand même assez significatif. Et on a eu zéro soutien. Donc on a râlé, on a fini par réussir à gratter 2 millions d'euros de soutien. Mais quand vous prenez la proportion et le rapport à ce qu'est le secteur marchand, on voit qu'on est encore très en dessous de ce qu'on pourrait légitimement avoir. Donc là, à mon avis, il y a un enjeu, mais c'est aussi de connaissance et de diffusion de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est peu visible. Quand je parle à des gens et que je présente l'activité d'atelier vélo, c'est encore peu connu par le grand public. Donc je pense qu'on a une chance de se développer, et ça croit, mais on aura besoin de davantage de soutien des pouvoirs publics pour le faire.
Ok. Mais je trouve que, si je peux me permettre, je trouve quand même que c'est quand même assez ambigu, non, cette position-là. Parce que, je dis pas la tienne, hein, je veux dire celle que nous pouvons ou ne pouvons pas avoir, dans le sens où est-ce qu'on a vraiment envie, besoin d'être soutenu, comme tu le dis, par les pouvoirs publics, dans la mesure où, tu le disais tout à l'heure, on a le risque de se faire rattraper par la question des labels, de se faire mettre sur la tête des demandes et des exigences, et ça serait légitime, puisque qui utilise tel argent public doit pouvoir dire à quoi il s'en sert. Enfin, je trouve que c'est pas simple, et c'est une ambiguïté dans laquelle on est tous, toutes, collectifs, associations, etc. Quelle part on a besoin de soutien politique, mais aussi financier, point d'interrogation, versus ils ont le pouvoir, mais on a de la puissance, versus on est dans des choix de fonctionnement, d'autogestion, d'autonomie, même si elle n'est pas une autonomie complète, mais en tout cas quelque chose qui tendrait vers une autonomie. Enfin, je trouve que cette navigation-là, elle est très fine à jouer, et que moi, je suis heureuse quand je vois combien de groupes ou de collectifs ont des façons différentes de traiter cette question. Et pour moi, une des horreurs, une des terreurs serait qu'il y ait, comme sur d'autres sujets, une centralisation, une concentration des pouvoirs, des façons de faire, etc. Et c'est là où les réseaux, comme le réseau REFER ou le REFIS qu'on a tenté de monter aussi sur les ordinateurs, sont utiles. C'est-à-dire que autant c'est bien qu'on puisse se regrouper, qu'on se parle, qu'on aille vers des mêmes choses si on a envie d'aller vers les mêmes choses, mais surtout pas, je trouve, hein, qu'on soit soutenu comme malgré nous, en ayant des obligations derrière qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir.
Je veux rebondir.
Vrai, c'est la question de qui gère l'argent au final, parce que l'argent pour avoir des locaux de qualité, pour amener son activité, nous on le prend si on en a besoin. Encore, il y a des assos qui n'en ont pas besoin parce qu'elles ont des modèles où elles sont complètement autofinancées. Mais effectivement, de garder la main sur la distribution et les fonds, c'est un enjeu primordial. Mais on s'en sort aujourd'hui. C'est vraiment ambigu dans le sens où je prends l'exemple il y a les fonds réparation pour la loi AGEC, puis il y a eu les fonds réemploi. Donc, réemploi, ça finance nos activités de ressourcerie, de recyclerie, etc. Sauf que quand on a défendu la création. On était très peu financés historiquement. On faisait du boulot en fait, bout de chaîne, et on touchait vraiment des clopinettes. Donc on a dit, c'est pas normal, vous mettez tout le pognon sur le recyclage des produits. Vous avez rien à foutre d'allonger la durée de vie, il faut agir en amont. On a obtenu les fonds réemploi, on voulait avoir la gestion de ces fonds, parce que c'était beaucoup d'argent. On l'a pas. Donc effectivement, d'un côté, on est rémunéré pour des activités, on n'était pas, et d'un autre côté, on a des obligations de traçabilité, des trucs vraiment chiants, voilà. Et c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on arrive à promouvoir notre modèle? Est-ce qu'il faut rester dans la marge? Est-ce qu'il faut s'institutionnaliser? Une question sans fin. Et j'ai pas de réponse, de bonne réponse. Et c'est vrai que chacun fait ses choix dans ses structures, et tant mieux aujourd'hui, justement, qu'on ait cette liberté-là.
Benoît.
Trois choses, c'est pour pas oublier la dernière. Ta question de base, c'est est-ce que ça a changé depuis tout c'est 2012, la création de Ripper Café Paris. Okay. Oui, je pense que ça a énormément changé du point de vue la conscience de tout le monde qu'il faut réparer pour éviter de jeter, pour préserver les objets. D'ailleurs, des grandes entreprises se mettent à offrir des services de réparation ou à inclure la réparation dans leur modèle économique, je sais pas, mais en tout cas dans ce qu'ils apportent comme service. Je pense qu'en 2012 c'était inenvisageable pour beaucoup d'entreprises. Après, c'est le deuxième point. Le problème de fond, c'est l'hyperconsommation. Enfin, j'entendais parler de consommation. Je pense qu'on a tous besoin de consommer. Encore une fois, on n'a pas les moyens tous d'être en autonomie et c'est pas possible. Mais donc, on doit consommer. On doit. Alors après, on peut discuter sur avec quoi, avec de l'argent, du troc, j'en sais rien. Mais le problème de fond, c'est l'hyperconsommation. Et notamment sur les par exemple les bonus réparation qu'il y a eu. Il peut y avoir des moments des effets d'aubaine et de gens même qui probablement font réparer des trucs qu'ils utilisent même pas, mais parce qu'ils se sont dit bon bah j'ai le bonus réparation, donc je vais consommer de la réparation puisque c'est gratuit, j'y vais. Et donc voilà, le problème de fond c'est ça. Bon, on a dit hein, comment nos structures peuvent répondre, peuvent apporter une alternative à cette question d'hyperconsommation, et je vous rejoins tous les deux dans le sens où il y a vraiment un apprentissage et un changement culturel à faire dans ce sens. Et la troisième chose, du coup, je l'ai. Ah oui, non, voilà, c'est ça.
J'allais
c'était,
te dire troisième.
C'était non. Je... Alors pour le coup, je suis pas un spécialiste de ces questions, donc j'espère que je vais pas dire de conneries. Mais il me semble que justement entre des modèles de bonus qu'on offre à tout le monde comme ça et qui donc pour moi vont dans le sens d'une hyperconsommation et du coup probablement un impact assez faible sur le système et rien du tout. Peut-être qu'il y a un entre-deux où il serait intéressant, mais tu as commencé à en parler, de mettre de l'argent dans des systèmes, par exemple les réparateurs professionnels, là je pense notamment à l'électroménager et aux petits électroménagers, mettre de l'argent pour que des réparateurs professionnels puissent s'installer et du coup évidemment c'est des emplois locaux par rapport à acheter une imprimante ou un grille-pain neuf qui est fabriqué à l'autre bout du monde et puis évidemment ça contribue quand même à réparer et du coup à éviter de jeter, donc je serais curieux de connaître votre opinion là-dessus parce que je connais pas bien le sujet.
Ok. Alors, les deux prennent leur micro.
Ouais, et je voulais revenir sur la question de la responsabilité dans la consommation. Oui, on est responsable de ce qu'on consomme, mais il y a aussi une responsabilité qui est celle des entreprises, qui est la responsabilité de ce qu'elles mettent sur le marché et qui sont elles-mêmes responsables de nous coincer dans des logiques de surconsommation, de publicité, de fast fashion, de tout ce qu'on veut. Et à mon avis, certes, à notre échelle, on peut essayer de s'en extraire. C'est le boulot qu'on fait dans les assos, de prendre conscience de ces enjeux-là. Mais derrière, il y a quand même la grosse machine qui nous écrase. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que l'enjeu, il se joue aussi là, dans la question de qu'est-ce qui est mis sur le marché, en quelle quantité et à quel point on arrive à agir là-dessus. Et c'est pas du tout la direction qui est prise par les pouvoirs publics aujourd'hui. Ils se concentrent beaucoup sur les soutiens en aval. À la limite, si on arrivait à recycler, à réparer un peu tout ça, on pourrait toujours produire et mettre sur le marché davantage parce qu'on aurait réglé le problème du déchet. Sauf que ça ne vient pas répondre à la question des ressources planétaires limitées, de toute la catastrophe écologique qui est en cours.
Il y a une loi qui est passée récemment sur l'encadrement de la fast fashion. On est sur un début d'encadrement, mais est-ce que ça fait partie des choses que nous, on a envie de pousser et qu'on pousse assez suffisamment aujourd'hui en tant qu'association sur l'encadrement de la production, en fait? C'est peut-être de ça dont on parle. Ou est-ce que c'est à nous, association, de réfléchir à nous-mêmes produire les objets? Je sais pas. C'est une question...
Produire nos propres objets, tu vois?
Ouais.
Ben ça va dépendre de quel... sur quel sujet. Il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir le faire et des thèmes sur lesquels ça va être un peu plus compliqué. Mais non, moi je veux bien revenir quand même sur un truc. On a un peu de temps encore.
On a 5 minutes encore.
On a 5 minutes. Ok. Donc en fait, ce que je voulais dire quand même, c'est que sur la question, on parle beaucoup donc des déchets parce que c'est une chose à laquelle on est toutes très très sensibles. Malheureusement, ça c'est un truc sur lequel personnellement je vois pas trop de solutions positives actuellement, ni promu par les associations ni par les pouvoirs publics, parce que même quand on essaie de parler de recyclage, il y a quand même très très peu d'objets, de choses, de matières sur lesquelles il y a pour de vrai du recyclage, et que pour d'autres, et par exemple notamment sur la question des ordinateurs et des D3E qu'on évoquait tout à l'heure, on sait que si on voulait vraiment monter des usines pour pouvoir faire du recyclage et pour pouvoir désassembler les toutes petites particules qu'on a mises ensemble au sein d'un petit smartphone ou d'un ordinateur tout plat, tout fin, on n'y arriverait pas et qu'on amènerait en fait une pollution encore plus grande que de ne rien faire. Et donc ça, c'est ça qui milite du coup pour une vraie réflexion sur ce que tu appelles l'hyperconsommation, mais même simplement la consommation. A-t-on besoin d'avoir tous, toutes, absolument un téléphone, plus une tablette, plus un ordinateur, plus, bah, je suis pas sûr, plus l'imprimante, pardon, j'ai oublié l'imprimante, faut avoir l'imprimante aussi. Je veux dire, bon, est-ce que c'est pas plutôt là-dessus qu'il faudrait qu'on travaille bien plus que faire semblant qu'un jour il va y avoir un super recyclage qui va être efficace?
Ok, Benoît.
Pour rebondir sur ce que disait Pierre, je suis tout à fait d'accord, hein, la responsabilité des entreprises, là on sort un peu de l'autoréparation, mais la responsabilité des entreprises dans l'hyperconsommation et dans la non-sobriété, elle est première, enfin je veux dire, elle est... voilà. Et les syndicats, j'en parlais au début, hein, les syndicats ont un rôle à jouer, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, avant la conclusion, je laisse...
Ok, en fait, on a un peu plus de temps que prévu apparemment, manifestement, on est venu nous dire ça. Donc si vous voulez, vous...
Pour faire notre vraie heure. Vas-y, voilà. Vas-y Pierre, et puis Pierre.
Alors quand c'était intéressant, Paul, ta question, tu disais, est-ce qu'il faut produire nous-mêmes nos objets? C'est une question qu'on s'est posée, on fait des rencontres annuelles, des ateliers vélo, ça fait 2 ans qu'on a un atelier sur sortir du modèle capitalisme et autoproduire certaines pièces. On a des pièces d'usure sur un vélo qui sont assez simples, je prends des patins de frein. Bon, on n'arrive pas trop aujourd'hui à lancer une production. Néanmoins, on voit de plus en plus une réflexion autour des communs, ce qui est sur du plan de pièces, du dessin, voire même d'outils, pour que ça puisse être fabriqué par les ateliers construits. Et ça, je pense que c'est, en fait, à notre échelle, quand même quelque chose qui est très intéressant. Et je dirais que ça va pas changer le système si on se compare à la masse de vélos produits. En fait, on jette 1 500 000 vélos par an en France.
Ouais, c'est énorme.
Donc, on en réemploie dans les assos à peu près 150 000. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'est une goutte d'eau, mais il faut pas s'empêcher de rêver. Et je pense que c'est aussi le rôle de nos assos que de créer ces alternatives. Peut-être qu'elles vont pas renverser le système, mais ça reste des espaces où on se dit, bah oui, tiens, je pensais que c'était pas possible, et en fait, si, on peut faire différemment. Et je pense que derrière l'autoréparation, il y a aussi ça comme valeur qui... cette alternative, en fait. Et c'est ça qu'on porte dans nos lieux aussi, c'est vraiment de se dire... Écoutez, vous avez vu le monde classique, marchand, lucratif, ce que le capitalisme vous offrait, et puis venez dans nos assos, et regardez ce qui s'y passe. Peut-être que ça sera pas à 100% satisfaisant du point de vue de la réparation, mais en fait, il y a tout un à côté qui est fondamental aussi dans le changement de comportement et de vision qu'on a sur notre société.
Ok, très bien. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ça? Est-ce que la question de la production a été... un jour pensé, réfléchi dans vos structures, Benoît?
Oui, il y a eu des tentatives de fabriquer, par exemple, des pièces plastiques avec des imprimantes 3D, de mettre en partage des modèles numériques justement pour refabriquer ces pièces. À ma connaissance, c'est pas allé vraiment au bout, sauf des réparateurs hyper pointus, passionnés, qui sont allés faire des choses, mais... c'est pas facile à mettre en œuvre de manière vraiment opérationnelle, quoi.
Ouais. Ok. Les Fab Labs aujourd'hui sont pas des acteurs avec qui vous travaillez régulièrement sur des petites.
Si, bien sûr, mais par contre, fabriquer une pièce, en tout cas, le format des Repair Café, c'est des événements qui se déroulent sur un après-midi en général, ouais. Et du coup, fabriquer une pièce, ça demande du temps, donc ouais. c'est. Ça veut dire un suivi plus long, donc c'est pas impossible, et encore une fois, effectivement, on peut y rêver, mais c'est une autre organisation et c'est plus compliqué à mettre en œuvre.
Ok, tu veux dire un mot, Isabelle ?
Ouais, je veux dire un mot parce que moi je trouve que le plus beau de là, c'est ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de la production d'un objet ou d'une chose, etc., c'est l'effet émancipateur de ce qu'on est en train de faire et ce que ça nous autorise tous toutes à réfléchir autrement. Et même si c'est effectivement des tout petits pas là-dessus, mais qu'on est ensemble pour le faire, moi je dis c'est bon, c'est déjà gagné ça.
Ok, Benoît ?
Oui, non, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, parce que t'as parlé d'espace physique. Je trouve qu'il y a un lieu génial pour les Repair Café, et mon rêve à moi, ça serait que dans toutes les bibliothèques, il y ait des Repair Café, parce que la bibliothèque, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu public. Alors pour les vélos, c'est un peu galère parce que c'est un peu trop salissant, mais pour le petit électronique, le petit électroménager, ça marche très bien. Et donc, je vous invite tous à aller voir votre bibliothèque municipale et à leur demander s'ils organisent des Repair Café, et si c'est pas le cas, peut-être leur proposer d'en lancer un.
Et en même temps, ils pourraient faire aussi des install parties pour mettre des distributions libres sur tous les ordinateurs.
Et on a un enjeu là-dessus, je pense, effectivement, à partager en commun ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques d'objets où on fait du prêt. Il y a des bibliothèques de compétences. On a des ressourceries qui font de la collecte, du réemploi. On a des ateliers de réparation. Chez nous, on a de plus en plus d'adhérents qui sont hybrides, enfin sur plusieurs objets. Ils vont faire couture. Non, mais ils font tout, quoi. Ils touchent à tout. Ils font du mobilier, du bois, de la réparation couture, des vélos, parce que c'est accessible. Est-ce que demain, dans nos villes, dans nos villages, il ne faut pas des espaces comme ça de partage, de commun, de réapprentissage où on va aussi questionner le modèle?
On les crée ces espaces.
Et voilà. Et je pense que ça, cet attachement, ces lieux, il faut mettre des moyens pour justement que ça se développe et qu'on les voit et que ce soit peut-être public, peut-être dans les bibliothèques, peut-être porté par des assoyeurs. Mais en tout cas, c'est ça dont on manque, à mon avis, aujourd'hui, dans cette capacité à avoir des endroits conviviaux et accueillants pour porter toutes ces initiatives.
Yeah. En préparant cette table ronde avec Pierre, on avait touché ce sujet-là des lieux communs entre les réseaux d'autoréparateurs, les ressourceries, etc. Toi, tu disais, Pierre, il y a des MJC, il existe des MJC, il existait des MJC, et on pourrait créer des MJC des objets. Et j'ai trouvé que c'était pas mal comme idée.
Bah, sauf que J, c'est jeune. Hein.
Ouais, pardon.
T'as vu, on est un peu des vieux, là, non?
Des MOC, des maisons des objets de la culture.
Voilà.
Voilà. Okay. Il faut le mettre.
Eh ben, écoutez, moi, j'ai réussi, quoi. Aussi. On a réussi notre pari. Jamais demain on monte une MOC avec tous les réseaux et les associations qui sont autour de la table. Une moque. On aura réussi notre coup. On va pas tarder à toucher à la fin, je pense.
Ouais, c'est bien, on va pouvoir rendre l'antenne, là.
On a, je crois, encore un tout petit peu de temps, si vous voulez dire un mot chacun, sur un des sujets qu'on vient de discuter ensemble, un truc que vous trouvez plus important que les autres, que vous voulez partager avec le public. Je sais pas s'il y en a un qui a une idée.
Moi je dirais, si vous avez jamais mis les pieds dans un Repair Café, un atelier d'autoréparation, même si vous avez rien de cassé, passez voir. En fait, passez voir, parce que ça se trouve, vous ouvrez votre compte et vous dites, bah tiens, c'est génial, j'ai envie d'aider moi aussi, parce que c'est ça aussi, hein. On recherche des bénévoles toujours, on a besoin de monde. Donc venez voir ce qui s'y passe si vous connaissez pas.
Ok.
Et on recherche des bénévoles de tout type, il n'y a pas besoin de savoir réparer pour être bénévole. Et par contre, on a des bénévoles qui ne savaient pas du tout réparer et qui, avec le temps, surtout avec la formule, dans les Repair Café, il y a une formule où il y a un réparateur devant une personne, un objet, et il y a une formule qu'on appelle l'auto-réparation, où il y a une grande table avec les outils au milieu, et les personnes viennent réparer eux-mêmes les objets avec l'aide de réparateurs qui tournent. Et donc comme ça, on peut vraiment apprendre. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin de savoir réparer pour être bénévole dans les Repair Café.
Okay. Et Antanac, il n'y a même pas besoin de savoir connaître l'informatique pour venir être là-bas et ouvrir un ordinateur. On a le droit de casser des ordinateurs si on n'arrive pas à les réparer, parce que de toute façon, il faut bien apprendre, et que moi, je connais personne qui a appris sans casser un jour quelque chose. Donc oui, on casse, oui, on répare, on refait, on recommence, et en tout cas, on s'amuse bien.
Ok. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup au public du Chakirail.
Ouais, merci. Et merci à toi, Paul.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Vous avez bravé la pluie. Merci. Et merci encore une fois, mille fois, aux organisateurs du Festival de la Récup pour nous avoir laissé organiser cet espace. Pour Olivier, et pour la radio Cause Commune, le Chakirail, c'est au 72 rue Riquet. Je regarde Mathilde. Ouais, c'est parfait. Paris 18e, pardon. Voilà. Donc
il y a encore des choses toute la journée de demain également.
Également demain. Donc je parlais tout à l'heure des boutiques solidaires, des ressourceries qui sont au 104. Il y a une vente aux enchères demain à 14h. Il y a des ateliers au Jardin des Halles autour de la récup et de la réparation, notamment avec les Repair Café de Paris et tout un tas d'associations. Vous, rassurez-vous, vous serez sous des barnums. Voilà.
Non, mais demain il y a du soleil.
Et demain il y a du soleil en plus.
Voilà. Cause commune. Comme si vous y étiez.